Sixième partie, Maisonnée. Chapitre 14. Lorsque la cloche se tait, je descends l'escalier. Fugace enfant abandonné dans l'œil de verre, suspendu au mur d'en bas. L'horloge tic-tac du balancier, en mesure. Mes pieds, dans leurs coquets souliers rouges, descendent en comptant les temps. La porte du salon est grande ouverte. J'entre. Pour le moment, il n'y a personne d'autre. Je ne m'assieds pas, mais prends ma place, à genoux, près du fauteuil flanqué d'un tabouret où Serena Joy viendra bientôt trôner, en s'appuyant sur sa canne, avant de s'y enfoncer. Il se peut qu'elle me pose la main sur l'épaule, pour se caler, comme si j'étais un meuble. Cela lui est déjà arrivé. Le salon se serait jadis appelé « salle de réception », peut-être. Puis salle de séjour. Ou peut-être est-ce un parloir, de ceux où il y a une araignée et des mouches. Mais maintenant c'est un salon, parce que c'est là son usage. Pour certains, on y fait salon. Pour d'autres, il n'y a que des places debout. La position du corps est importante, ici et maintenant. Les inconforts mineurs sont instructifs. Le salon est discret, symétrique. C'est l'une des formes que prend l'argent quand il se congèle. L'argent a ruisselé sur cette pièce pendant des années et des années, comme dans une grotte souterraine, en formant une croûte et en se durcissant comme des stalactites pour lui donner ses formes. En silence, les différentes surfaces se présentent. Le velours rose, crépuscule des tentures tirées, le poli des fauteuils assortis, 18e, l'épais silence feutré du tapis chinois à franges, avec ses pivoines rose pêche, le cuir suave du fauteuil du commandant, le reflet de cuivre sur le coffret, placé à son côté. Le tapis est authentique. Certains des objets de cette pièce sont authentiques, d'autres pas. Par exemple, deux portraits de femmes, de part et d'autre de la cheminée. Toutes deux portent des robes noires, comme celle de l'ancienne église, mais d'une époque plus tardive. Ces tableaux sont peut-être authentiques. Je soupçonne que lorsque Serena Joy les a acquis, après s'être rendue à l'évidence qu'il lui faudrait redéployer ses énergies dans un domaine incontestablement ménagé, elle avait l'intention de les faire passer pour ses ancêtres. Ou peut-être était-il dans la maison quand le commandant l'a acheté. Il n'y a aucun moyen de savoir ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, les portraits sont accrochés là, le dos et la bouche raides, les seins bridés, le visage pincé, le bonnet amidonné, la peau blanc grisâtre, à surveiller la pièce de leurs yeux étrécis. Entre eux, au-dessus du manteau de cheminée, un miroir ovale, flanqué de deux paires de chandeliers en argent. Et au milieu, un cupidon de porcelaine blanche, le bras passé autour du cou d'un mouton. Les goûts de Serena Joy sont un curieux mélange. Appétit féroce de qualité, douce nostalgie sentimentale. Il y a une composition de fleurs séchées à chaque extrémité de la tablette et un vase de jonquilles fraîches sur la table de marqueterie cirée qui borde le divan. La pièce sent l'essence de citron, les draperies lourdes, les jonquilles mourantes, les odeurs traînantes de nourriture qui se sont infiltrées de la cuisine ou de la salle à manger, et le parfum de Serena Joy, muguet sauvage. Le parfum est un luxe. Elle doit avoir une source privée. Je le hume en me disant que je devrais l'apprécier. C'est l'odeur de fillettes prépubères, des cadeaux que les petits-enfants offraient à leur mère pour la fête des mères. L'odeur de chaussettes blanches en coton et de jupons blancs en coton. De talc, de l'innocence, de la chair féminine, non encore vouée à la pilosité et au sang. Cela me donne une légère nausée, comme si j'étais dans une voiture fermée par une journée chaude et humide, en compagnie d'une vieille femme, trop poudrée. C'est à cela que ressemble le salon, malgré son élégance. Je voudrais voler quelque chose dans cette pièce. J'aimerais prendre un petit objet. Le cendrier à arabesque, la petite boîte en pilule en argent sur la tablette de la cheminée, peut-être. ou une fleur séchée, le cacher dans les plis de ma robe ou dans ma manche fermée par une glissière, les garder jusqu'à ce que cette soirée soit passée, le cacher dans ma chambre, sous le lit, ou dans une chaussure, ou dans une fente du coussin foie au petit point. De temps en temps, je le sortirai et le regarderai. Cela me donnerait l'impression d'avoir un pouvoir. Mais un tel sentiment serait une illusion et le risque est trop grand. Mes mains restent où elles sont, croisées sur mes genoux. Cuisses jointes, talons repliés sous moi, pressés contre mon corps, tête baissée. Dans ma bouche, il y a le goût du dentifrice, menthe artificielle et plâtre. J'attends que la maisonnée se réunisse. Une maisonnée, c'est ce que nous sommes. Le commandant est le maître de notre maison. Il maîtrise notre maison. Posséder et maîtriser, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mettre à bord. Les cales du navire, vides. Cora arrive la première, puis Rita, qui s'essuie les mains à son tablier. Elles aussi ont été convoquées par la cloche. Cela les irrite. Elles ont autre chose à faire. La vaisselle, par exemple. Mais il faut qu'elle soit là. Il faut que tout le monde soit présent. La cérémonie l'exige. Nous sommes tous tenus de la subir jusqu'au bout, d'une manière ou d'une autre. Rita me regarde de travers avant de se glisser debout derrière moi. C'est ma faute si on lui fait perdre son temps. Pas ma faute, celle de mon corps. Si tant est que cela fasse une différence. Même le commandant est soumis à ses caprices. Nick entre, fait un signe de tête à chacune de nous trois. Regarde alentour de la pièce. Lui aussi prend sa place derrière moi, debout. Il est si près que le bout de sa botte me touche le pied. Est-ce exprès? Quoi qu'il en soit, nous nous touchons. Deux formes de cuir. Je sens ma chaussure s'attendrir. Le sang y afflue. Elle devient chaude. Elle devient une peau. Je déplace légèrement mon pied. L'éloigne. Pourvu qu'il se dépêche, dit Cora. Dépêche-toi d'attendre, dit Nick. Il rit. Bouge le pied de sorte qu'il touche de nouveau le mien. Personne ne peut le voir sous les plis de ma jupe étalée. Je change de position. Il fait trop chaud ici. L'odeur de parfum éventé me donne un peu mal au cœur. Je retire mon pied. Nous entendons Serena approcher, descendre l'escalier, longer le couloir, le tac-tac étouffé de sa canne sur le tapis, le choc mat de sa bonne jambe. Elle passe la porte en clopinant, nous jette un coup d'œil, nous compte, mais ne nous voit pas. Elle fait un signe de tête à Nick, mais ne dit rien. Elle est vêtue de l'une de ses plus belles robes, bleu ciel, avec des broderies blanches le long du liseré du voile. Fleurs et jours. Même à son âge, elle éprouve le besoin de s'enguirlander de fleurs. Je lui dis, en pensée, le visage impassible. Peine perdue, tu ne peux plus t'en servir, tu es fanée. Ce sont les organes génitaux des plantes. J'ai lu ça quelque part autrefois. Elle se propulse jusqu'à son fauteuil et son tabouret. Se tourne, se baisse, atterrit lourdement. Elle hisse son pied gauche sur le tabouret, fouille dans la poche de sa manche. J'entends le bruissement, le clic de son briquet. Je sens la chaude odeur de grillé, de la fumée, la hume. « En retard, comme toujours ?» dit-elle. Nous ne répondons pas. Il y a un remue-ménage pendant qu'elle tâtonne sur le guéridon, puis un cliquetis, et le poste de télévision se met à chauffer. Un cœur masculin. Au teint jaune verdâtre, il faudrait régler la couleur. Il chante. Venez à l'église du bois sauvage. Venez, 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 chantent les basses. Serena actionne la commande automatique, des ondes, des zigzags colorés, des sons dénaturés. C'est la station par satellite de Montréal, parasitée. Puis apparaît un prédicateur convaincu, les yeux sombres et brillants, qui se penche vers nous par-dessus un bureau. De nos jours, il ressemble beaucoup à des hommes d'affaires. Serena lui accorde quelques secondes, puis appuie sur le bouton suivant. Plusieurs chaînes vides, puis les informations. C'est cela qu'elle cherchait. Elle se renverse dans son fauteuil, aspire profondément. Moi, au contraire, je me penche en avant, comme un enfant à qui l'on permet de veiller avec les grandes personnes. C'est la seule chose agréable dans ces soirées, les soirées de cérémonie. On me permet de regarder les informations. Il semble que ce soit une règle tacite dans cette maison. Nous arrivons toujours ici à l'heure, il est toujours en retard. Serena nous laisse toujours regarder les informations. Telles qu'on les donne. Qui sait si une seule de ces nouvelles est véridique? Il pourrait s'agir de vieux reportages. Tout cela pourrait être falsifié. Mais je regarde quand même, dans l'espoir d'arriver à lire entre les lignes. N'importe quelle nouvelle, aujourd'hui, vaut mieux que pas de nouvelles du tout. D'abord les grands titres. Ce ne sont pas vraiment des titres. Il semble que la guerre se déroule en plusieurs endroits à la fois. Des collines boisées, vues du dessus. Des arbres d'un jaune maladif. Je voudrais qu'elle règle la couleur. Les monts Appalaches, dit le commentaire, où les anges de l'Apocalypse de la 4e division enfument un réduit de la guérilla baptiste, avec le soutien de l'aviation du 21e bataillon des anges de la lumière. On nous montre deux hélicoptères, noirs avec des ailes argentées peintes sur leurs flancs. Sous eux, un bouquet d'arbres explose. Maintenant, un gros plan d'un prisonnier, le visage sale, une barbe de plusieurs jours, flanquée de deux anges en uniforme noir, impeccable. Le prisonnier accepte une cigarette de l'un des anges, la porte maladroitement à ses lèvres de ses mains liées. Il fait un petit sourire tordu. Le commentateur dit quelque chose, mais je ne l'entends pas. Je regarde cet homme dans les yeux pour essayer de décider ce qu'il pense. Il sait que la caméra est sur lui. Le sourire est-il une marque de défi ou de soumission? Est-il gêné d'avoir été pris? Il ne nous montre que des victoires, jamais de défaites. Qui a envie de mauvaises nouvelles? Peut-être est-ce un acteur. Le présentateur apparaît maintenant. Il a des manières bienveillantes, paternelles. Il nous contemple depuis l'écran et ressemble, avec son hâle, ses cheveux blancs, ses yeux candides, entourés de rides sagaces, au grand-père idéal de tout un chacun. Ce qu'il nous dit laisse entendre son sourire immuable est pour notre propre bien. Tout ira bien bientôt, je le promets. Nous vivrons en paix. Vous devez avoir confiance. Vous devez aller dormir, comme des enfants sages. Il nous dit ce que nous aspirons à croire. Il est très convaincant. Je lutte contre lui. Je me dis qu'il ressemble à une vieille vedette de cinéma, avec des fausses dents et un visage retapé. En même temps, je vacille vers lui, comme hypnotisée. Si seulement c'était vrai. Si seulement je pouvais croire. Il nous informe à présent qu'un réseau secret d'espionnage a été démantelé par une équipe Dieu, avec l'aide d'un informateur. Ce réseau avait passé en contrebande des ressources nationales précieuses au Canada, de l'autre côté de la frontière. 5 membres de la secte hérétique des Quakers ont été arrêtés, dit-il, avec un sourire débonnaire, et l'on prévoit de nouvelles arrestations. 2 des Quakers apparaissent à l'écran, un homme et une femme. Ils semblent terrorisés, mais essaient de conserver quelque dignité face à la caméra. L'homme a une grosse marque noire au front, le voile de la femme a été arraché, ses cheveux tombent en mèche sur son visage. Tous deux ont environ 50 ans. Maintenant nous voyons une ville, toujours en vue aérienne. C'était autrefois Détroit. Derrière la voix du commentateur, on entend un pilonnage d'artillerie. De la ligne d'horizon montent des colonnes de fumée. Le transfert des enfants de Cham se poursuit conformément au plan, dit le visage rose et rassurant, revenu à l'écran. 3 000 sont arrivés cette semaine dans la patrie nationale numéro 1 et 2 000 autres sont en route. Comment peuvent-ils transporter autant de gens en même temps? Train, autocar? On ne nous en montre pas d'image. La patrie nationale numéro 1 est en Dakota du Nord. Dieu sait ce qu'ils sont censés faire une fois arrivés. De l'agriculture, en principe. Serena Joy en a assez des informations. Avec impatience, elle appuie sur le bouton pour changer de chaîne. Tombe sur un baryton basse vieillissant, les joues pareilles à des pies vidées. Il chante « Murmure d'espoir ». Serena le coupe. Nous attendons. La pendule du vestibule tic-tac. Serena allume une autre cigarette. Je monte dans la voiture. C'est un samedi matin, c'est septembre. Nous avons encore une voiture. D'autres gens ont dû vendre la leur. Je ne m'appelle pas de Fred. J'ai un autre nom, dont personne ne se sert maintenant parce que c'est interdit. Je me dis que ça n'a pas d'importance. Un prénom, c'est comme son propre numéro de téléphone. Cela ne sert qu'aux autres. Mais ce que je me dis est faux. Cela a de l'importance. Je garde le savoir de ce nom comme quelque chose de caché, un trésor que je reviendrai déterrer un jour. Je pense à ce nom comme à quelque chose qui serait enfoui. Ce nom a une aura, comme une amulette, un talisman qui a survécu à un passé si lointain qu'on ne peut l'imaginer. Je suis allongée dans mon lit à une place la nuit, les yeux fermés, et ce nom flotte derrière mes paupières, légèrement hors d'atteinte, resplendissant dans le noir. C'est un samedi matin de septembre. Je porte mon nom, resplendissant. La petite fille qui est morte à présent est assise sur le siège arrière, avec ses deux plus belles poupées et son lapin en peluche, galeux de vieillesse et d'amour. Je connais tous les détails. Ce sont des détails sentimentaux, mais je n'y peux rien. Pourtant, je ne peux pas trop penser au lapin. Je ne peux pas me mettre à pleurer ici sur le tapis de Chine en aspirant la fumée qui a passé par le corps de Serena. Pas ici, pas maintenant. Je pourrais faire cela plus tard. Elle croyait que nous partions en pique-nique. Et il y a vraiment un panier sur le siège arrière à côté d'elle, avec de la vraie nourriture dedans. Œufs durs, thermos et tout. Nous ne voulions pas qu'elle sache où nous allions vraiment. Nous ne voulions pas qu'elle parle par erreur, dévoile quelque chose, si nous étions arrêtés. Nous ne voulions pas la charger du poids de notre vérité. Je portais mes bottes de randonnée, elles s'éteignissent. Les lacets s'éteignissent avaient un motif de cœur, rouge, violet, rose et jaune. Il faisait chaud pour la saison. Les arbres roussissaient déjà, quelques-uns. Luc conduisait. J'étais assise à côté de lui, le soleil brillait. Les maisons que nous longions avaient l'air rassurant et ordinaire. Chacune d'entre elles, une fois derrière nous, s'évanouissait dans le temps passé, s'effritait en l'espace d'une seconde, comme si elle n'avait jamais existé. Parce que je ne la verrai jamais plus. C'est du moins ce que je croyais alors. Nous n'avions presque rien emporté. Nous ne voulions pas avoir l'air de partir loin, pour toujours. Nous avions les faux passeports garantis, valant leur prix. Nous n'avions pas pu les payer en argent, bien sûr, ni les régler par ordinatron. Nous avions utilisé autre chose. Des bijoux qui avaient appartenu à ma grand-mère, une collection de timbres héritée d'un oncle de Luc. Ces choses-là peuvent être échangées contre de l'argent dans d'autres pays. Quand nous arriverons à la frontière, nous prétendrons que nous passons seulement pour la journée. Les faux visas sont valables un jour. Avant cela, je lui donnerai un somnifère pour qu'elle dorme au moment où nous traverserons. Ainsi, elle ne nous trahira pas. On ne peut pas s'attendre d'un enfant qu'il mente de manière convaincante. Et je ne veux pas qu'elle ait peur, qu'elle sente la frayeur qui me crispe maintenant les muscles, me raidit l'échine, me tend au point où je casserais, j'en suis sûre, si on me touchait. Chaque feu rouge est un supplice. Nous passerons la nuit dans un motel, ou, mieux, nous dormirons dans la voiture, sur un chemin latéral, pour éviter les questions suspectes. Nous traverserons dans la matinée, franchirons le pont tranquillement, tout comme si nous nous rendions au supermarché. Nous nous engageons sur l'autoroute en direction du nord. Il n'y a pas trop de circulation. Depuis le début de la guerre, l'essence est chère et rare. Hors de la ville, nous passons le premier poste de contrôle. Tout ce qu'ils veulent, c'est voir le permis. Luc s'en tire bien. Le permis correspond au passeport. Nous y avons veillé. De retour sur la route, il m'étreint la main, me jette un regard. Il dit « Tu es blanche comme un linge. » C'est ainsi que je me sens. Blanche, plate, mince. Je me sens transparente. Sûrement, ils pourront me percer à jour. Pire, comment pourrais-je m'accrocher à Luc, à elle, alors que je suis si plate, si blanche? J'ai l'impression qu'il ne reste pas grand-chose de moi. Ils me glisseront des bras comme si j'étais faite de fumée, comme si j'étais un mirage qui s'évanouit sous leurs yeux. « Ne pense pas ça !» dirait Moira. « Si tu penses ça, tu le feras arriver !»« Courage !» dit Luc. Il conduit un peu trop vite maintenant. L'adrénaline lui est montée à la tête. À présent, il chante. Il chante « Oh, quelle belle matinée !» Même l'entendre chanter m'inquiète. On nous a mis en garde de ne pas paraître trop heureux.